Vous êtes sur RTL. RTL Midi,
le 12 août,
avec Olivier Bois.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans RTL Midi, ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30, 2 heures d'infos, de débats mais aussi d'opinions. Vous nous appelez au 3210 comme tous les jours à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. À la une de votre journal, c'est une information RTL et c'est un drame absolu à bord dans les Pyrénées-Atlantiques. Un bébé de 1 an a été retrouvé mort, il avait été oublié dans une voiture par son père. À la teste de il est trop tôt pour renvoyer les milliers de personnes évacuées chez elles, même si les feux, pour la première fois, n'ont pas progressé hier. Dans ce journal également, la fin du timbre rouge à la poste dès l'année prochaine. Il faudra scanner désormais ces lettres urgentes, vous allez tout comprendre. Et puis les abricots sucrés et les cerises moins chères. La saison a été excellente sur les marchés. On en parlera avec Stéphanie Pratt, qui sera l'invitée de ce RTL Midi à 12h40. Elle qui est la directrice de la Fédération Nationale des Producteurs de Fruits. Et puis en Italie, Mario Draghi démissionne. La montée en puissance des post-fascistes inquiète maintenant alors qu'il y aura de nouvelles élections. La météo, bonjour Anthony Kaczmarek.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Alors justement d'abord le temps en Gironde, puisqu'on l'a dit, hein, l'accalmie aide en ce moment les pompiers depuis hier d'ailleurs.
Bon, ce sera malheureusement sec, ensoleillé et chaud. On aura 32 degrés dans la zone, mais la bonne nouvelle c'est que nous n'aurons pas de vent aujourd'hui dans cette zone. Donc c'est une très très bonne nouvelle. En revanche, on surveille le sud-est parce que là-bas il fera aussi très chaud, avec 12 départements en vigilance orange canicule. Du plein soleil et surtout du mistral qui va se lever jusqu'à 50 km/h en rafale. Vent d'ouest aussi sur la côte varoise. Le soleil, on va le retrouver sur une très large moitié sud du pays dans l'après-midi. Et puis dans le nord, quelques nuages vont s'infiltrer. Ils seront plus nombreux vers les frontières du nord où ils pourraient lâcher une ou deux gouttes, notamment vers la frontière belge. Les températures seront donc très contrastées. On partira de 21 degrés à Cherbourg pour aller jusqu'à 38 à Nîmes. Vous aurez 24 à Lille, 28 à Paris et Strasbourg, 31 à Nice, 32 à Lyon et Bordeaux et 36 à Marseille.
Merci beaucoup Anthony Kaczmarek, on vous retrouve à 13h tout à l'heure. Et puis un grand merci à vous tous qui nous écoutez. Selon le sondage Médiamétrie qui vient de paraître pour le dernier trimestre, vous étiez plus de 5,5 millions d'auditeurs à suivre les programmes d'RTL quotidiennement. En particulier d'ailleurs RTL Midi et votre émission Les Auditeurs ont la parole qui réalise d'excellents sondages. Merci à tous pour votre fidélité.
RTL Midi.
Et donc d'abord cette information que vous révèle RTL ce midi, information terrible à Borde dans les Pyrénées-Atlantiques. Un bébé de 1 an a été retrouvé mort dans une voiture, Léonard Cassette.
Oui, selon nos informations, le papa, un salarié du groupe Safran, aurait oublié son petit garçon d'un peu plus d'un an sur le parking de son lieu de travail à Borde. Il était censé le déposer à la crèche dans la commune voisine d'Assat, en périphérie de Pau. C'est d'ailleurs cette crèche qui aurait donné l'alerte, comme l'explique Jean-Christophe Rau, le maire de la commune.
J'ai été averti hier soir, non seulement par des Assatois, mais aussi par la crèche d'Assat, qu'un enfant était décédé dans l'après-midi. C'est un enfant qui était régulièrement à la crèche et je n'ai pas plus d'informations sur les circonstances du décès.
Le parquet de Pau communiquera dans l'après-midi sur les circonstances de ce tragique événement. Un drame similaire avait endeuillé une famille à Saint-Nazaire il y a un mois. Là aussi, c'était un père qui se rendait au travail et qui avait oublié son enfant dans la voiture.
Merci beaucoup Léonard Cassette. Information RTL donc sur la mort de ce bébé d'un peu plus d'un an, oublié dans une voiture à Borde dans les Pyrénées-Atlantiques.
RTL Midi.
En Gironde, pour la première fois, les feux n'ont pas progressé hier, que ce soit à Landiras dans les terres ou du côté de la Teste de Buch sur le bassin d'Arcachon. Plus de 30 000 personnes malgré tout restent évacuées depuis mardi dernier. Mais pour le moment, il est beaucoup trop tôt pour envisager un retour des habitants chez eux, selon le sous-préfet d'Arcachon, Ronan Léostic.
Nous ne prendrons aucun risque, je vous le dis. Ça serait quand même un comble de se précipiter, même si je comprends tout à fait l'impatience et c'est légitime de l'ensemble des habitants, en particulier de ceux qui ont été évacués il y a maintenant quasiment une semaine. Nous ne voudrions pas, par une des décisions peut-être précipitées ou en tout cas non sécurisées à 100%, que des personnes qui réintégreraient leur maison parce qu'ils sont pressés, etc., puissent nous poser quelques difficultés ensuite en sécurité.
Ronan Léostic, le sous-préfet d'Arcachon, il répondait à Zoé Pallier. On en vient maintenant à cette petite révolution à la Poste qui va supprimer le timbre rouge pour les courriers urgents. Bonjour Christophe Bourou.
Bonjour.
Alors quand on voudra aller vite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra passer par Internet?
Alors vous savez, le timbre rouge, c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'envoyer un courrier en urgence et de s'assurer qu'il arrive à destination le lendemain. Au 1er janvier, il faudra en effet vous connecter sur le site de la Poste et écrire votre lettre en ligne ou la scanner avant 20h. Explication avec Philippe Dorge qui dirige la branche service courrier de la Poste.
Cette lettre sera réimprimée durant la nuit et mise sous pli. La Poste mettra le timbre rouge durant la nuit et ce sera distribué dès le lendemain à son destinataire par les facteurs, physiquement évidemment.
Alors pour tous ceux qui n'ont pas accès à Internet, vous pourrez envoyer cette e-lettre rouge depuis un bureau de poste via une borne. Reste tout de même une question, celle de la confidentialité.
C'est fait automatiquement par des machines, c'est-à-dire la machine imprime et immédiatement met sous pli. Donc il n'y a pas d'intervention humaine, ça assure une totale confidentialité.
Un service qui sera facturé 1,49€, c'est 6 centimes de plus qu'aujourd'hui.
Et pourquoi la Poste prend cette décision?
Bien parce qu'il y a 300 millions d'envois urgents aujourd'hui, c'est en chute libre, c'est 14 fois moins qu'en 2008, ce qui coûte de plus en plus cher pour l'acheminement via les avions. D'ailleurs, selon la Poste, cette e-lettre rouge permettra d'économiser pas moins de 60 000 tonnes de CO2 par an.
Donc on est d'accord, le processus, scanner sa lettre qu'on a écrite à la main, la mettre sur le site de la Poste qui ensuite se charge de la réimprimer pour la distribuer à votre interlocuteur.
Vous avez tout résumé.
Et bien on va en parler au 3210 à partir de 13h de ce changement majeur. Venez nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que, encore une fois, ceux qui sont dans les zones blanches Internet sont pénalisés? Est-ce que ça pénalise également les plus anciens qui sont peut-être parfois un peu moins agiles avec les courriers électroniques? On en parle avec vous tous au 3210 à partir de 13h. Autre sujet sur lequel on attend vraiment votre avis, les fruits d'été sont visiblement particulièrement savoureux cette saison. Abricots gorgés de sucre, pareil pour les cerises. En plus, les prix sont plus bas que l'année dernière à cause de récoltes abondantes. 1 à 2 euros de moins, par exemple, pour le kilo de cerise. Est-ce que cet avis est partagé à Marseille, Célestin Bougère? Vous êtes allé faire le marché?
Je suis sur le stand de François, un habitué de ce marché. Chez lui, on retrouve uniquement des produits locaux.
Ah, les melons, ils viennent de Saint-Rémy-de-Provence, les pêches aussi, les abricots aussi, hein, c'est pareil. Tout est bon, bien sucré, très sucré, bien fruité.
Thérèse se laisse tenter par les pêches.
Parce que c'est la saison des pêches et que quand on n'en aura plus, on va pleurer. Donc on se dépêche d'acheter des pêches. Elles sont juteuses, fruitées, tout ce qu'il faut. Les cerises, elles me font très envie. Je vais prendre des cerises, c'était pas prévu. Je suis venue acheter des pêches et je vais repartir avec des cerises.
Elle a même le droit de goûter une cerise du Mont Ventoux.
Elle est aussi bonne qu'elle est belle.
Juste derrière, Rose, une retraitée, a fait de grandes courses.
Bah, j'ai acheté, comme on achète dans le midi, des cerises, des abricots, des pêches. Pour se rafraîchir, c'est ce qu'il y a de mieux, non?
Il fera jusqu'à 36 degrés aujourd'hui ici à Marseille. Alors moi, je vais suivre les conseils de Rose et je vais aller m'acheter 2 ou 3 abricots.
Voilà, on se dépêche pour les pêches. Merci beaucoup, Célestin Bougère, reportage à Marseille. Alors on en parle dans quelques minutes avec l'invité de ce RTL Midi, Stéphanie Pratt, qui est la directrice de la Fédération nationale des producteurs de fruits. Très bonne saison pour les producteurs, alors que c'était mal parti, souvenez-vous, en mars, en avril dernier, après les grêles, les agriculteurs étaient très inquiets. Et puis, vous pouvez nous appeler également sur un phénomène qui prend de l'ampleur, l'embouteillage depuis des mois pour refaire ses papiers d'identité. Il y a eu tellement de demandes en sortie de crise Covid et à l'approche de l'été que les délais dépassent parfois les 3 mois. Résultat, certains doivent parfois renoncer aux vacances parce qu'ils ne peuvent pas prendre l'avion. C'est le cas de Binta, qui habite en Seine-Saint-Denis.
J'ai pris le rendez-vous en décembre 2021. Je me suis présentée le 19 mai à la mairie. Mon dossier est passé. Depuis ce jour, je n'ai pas de retour. Quand je vais sur le site de la NTS, c'est indiqué passeport en cours de production. J'ai appelé directement la préfecture du 77 et les personnes à l'accueil m'ont informé qu'en fait, qu'ils étaient en sous-effectif et qu'en fait, le délai était de 12 semaines à partir du dépôt de la demande. 12 semaines pour faire un passeport, c'est aberrant. Je suis bloquée puisque je ne peux pas partir en vacances en famille. On avait prévu en fait de partir au Sénégal avant la rentrée scolaire. Malheureusement, tout ça tombe à l'eau.
Voilà la très grosse galère donc pour Binta à cause de son passeport et de ses cartes d'identité. Si cela vous est arrivé, appelez-nous là encore pour nous raconter vos mésaventures au 3210 à partir de 13h.
RTL Midi.
Allez, on va parler maintenant de cette tension palpable à l'Assemblée nationale, notamment entre la NUPES et les autres forces politiques. Je vous cite la phrase choc qu'a prononcée ce matin Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur BFM TV. Il dénonce un problème de comportement chez la France insoumise avec une gauche, je cite, sale, débraillé et qui crie partout. Fin de la citation. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire.
Bonjour.
J'ai pas le souvenir d'avoir entendu une phrase aussi violente à l'encontre de parlementaires qui sont élus. Est-ce qu'au-delà de l'outrance, ça correspond à un climat dégradé en ce moment dans l'hémicycle ?
Écoutez, c'est vrai qu'il y a une ambiance houleuse qu'on a pu entendre hier soir dans l'hémicycle. Écoutez cet échange entre Rachel Keke de la France Insoumise et Aurélien Pradier des Républicains.
Qui a déjà touché 800 euros ? Qui a déjà touché 900 euros ? 1000 euros, personne. Vous savez pas ce que c'est.
Vous avez votre histoire, vous avez votre parcours. Nous le respectons. Si vous voulez que nous respections chacun votre parcours, respectez aussi le nôtre.
Alors Rachel Keke parle en connaissance de cause des petits salaires. Elle a été femme de ménage dans un hôtel. Mais d'autres députés pourraient dire la même chose, lui rappelle Aurélien Pradier. Les parcours avec galère ou revenus modestes existent, même si c'est minoritaire, dans tous les groupes. Et les insoumis ne sont pas si différents que ça des autres. Chez eux, il y a des enseignants, des fonctionnaires, voire des ingénieurs. Il y a même plus de cadres à la NUP que chez les macronistes. Mais c'est vrai aussi qu'on y compte quelques employés, des personnels de santé ou une ouvrière agricole. Ce qui est vrai, c'est que les insoumis font parfois une arme politique de leur façon de s'habiller et surtout de leur comportement en assumant d'invectiver la majorité pour être l'adversaire le plus bruyant de la Macronie.
Merci Marie-Bénédicte Allaire et vous nous appelez au 3210 là encore. Est-ce que vous trouvez que l'Assemblée ressemble plus à la population ? Est-ce que vous trouvez que c'est trop tendu en ce moment, qu'on est plus dans l'affrontement permanent que dans la gestion constructive ? Est-ce que vous êtes choqué par cette phrase que je vous ai citée de Renaud Muselier ? Vous nous appelez tout à l'heure au 3210. On part en Italie maintenant, où le Premier ministre italien Mario Draghi a démissionné. Sa coalition d'Union nationale a implosé sous l'impulsion des partis de droite et d'extrême droite. Sophie Jousselin.
Oui, pourtant Mario Draghi a obtenu la confiance au Sénat hier soir, mais de trop peu. Le chef du gouvernement italien a donc décidé de jeter l'éponge, lâché par l'inclassable mouvement 5 étoiles populiste, mais aussi par deux de ses alliés de droite et d'extrême droite. Il aura passé presque un an et demi à la tête de cette coalition d'Union nationale. L'Italie se dirige maintenant vers des élections anticipées à l'automne. Surtout, le pays renoue avec une instabilité politique qui tombe au plus mal et qui ne manquera pas d'inquiéter Bruxelles. L'Italie reste le maillon faible de la zone euro. Avec une dette colossale, elle doit préparer son budget 2023, mettre en place les mesures réclamées par Bruxelles pour bénéficier des aides européennes. Or, si Mario Draghi avait la confiance des dirigeants européens, c'est la totale incertitude sur ce qui pourrait se passer. Le soutien de la Banque centrale européenne pourrait dépendre du nouveau gouvernement, de ses orientations, avec à la clé une possible déstabilisation de l'Italie et de l'Europe.
Merci beaucoup Sophie Jousselin. Vladimir Poutine lui a rouvert le robinet du gaz. Nord Stream reprend du service, mais à débit réduit et avec de toute façon la menace d'être soumis aux humeurs du chef du Kremlin. Ça ne change donc pas la volonté des Européens de lancer un plan d'économie de 15% pour espérer passer l'hiver sans trop de restrictions. Deux mots de sport. D'abord le Tour de France, c'est la dernière étape Pierre entre Lourdes et Hautacam. Départ 13h40. On retrouve Christophe Paco juste après, dans quelques minutes, pour RTL chez vous. Et puis les Girondins de Bordeaux qui vont à nouveau plaider leur cause cet après-midi. Relégués en national, ils sont auditionnés par le comité olympique pour tenter de conserver une chance d'être en Ligue 2. Ils affirment avoir réduit désormais leur dette de 75%. On va faire une pause et dans un instant justement on parle de cette saison exceptionnelle pour les fruits juteux, moins chers que l'année dernière, des agriculteurs et des producteurs qui sont heureux. On en parle avec la représentante de la fédération justement. A tout de suite sur RTL.
Olivier Bois,
RTL Midi.
RTL Midi
avec Olivier Bois.
Midi 44 sur RTL et on accueille l'invité de ce RTL Midi, Stéphanie Prat. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes en studio avec nous, vous êtes la directrice de la Fédération Nationale des Producteurs de Fruits. On l'a entendu dans notre journal il y a quelques minutes. La saison est exceptionnelle, vous n'avez que des producteurs heureux de cette saison.
En tout cas, sur les fruits d'été, on a effectivement des producteurs qui sont très heureux de pouvoir proposer aux consommateurs des fruits extrêmement bons, avec une qualité exceptionnelle.
Ça a été testé, par exemple, les abricots. Le taux de sucre des abricots est particulièrement fort cette année. C'est ce qui les rend évidemment plus juteux, moins pâteux que certaines années, quoi.
Exactement. Et le consommateur est super content. Je crois que ça a été dit tout à l'heure. C'est grâce notamment à un printemps dont les conditions climatiques ont été idéales pour que le taux de sucre soit là.
On va en reparler dans un instant. Les cerises, c'est le même constat également pour ces fruits-là. Le mois de juin, début juillet a été excellent.
Exactement, c'est le même constat pour les cerises qui, elles, souffrent malheureusement d'un autre problème, d'une petite mouche qui malheureusement ravage les vergers de cerises. Mais ça n'empêche pas d'avoir le sucre, la qualité.
Et des récoltes quand même abondantes. Est-ce que c'est ça aussi qui explique le fait qu'on l'entend aussi sur les marchés? Les prix sont plus bas que l'année dernière. 1 euro à 2 euros moins cher au kilo pour les cerises. Je crois que tout le monde l'a remarqué.
Tout à fait. Malheureusement, l'année dernière, un gel dramatique avait touché et ravagé la quasi-totalité du territoire et touché toutes les productions, ce qui avait engendré des volumes très nettement en baisse. Et donc des prix un peu à la hausse. Cette année, toutes les conditions sont remplies.
Et sur les conditions climatiques qu'on vient de connaître, les 10 jours de canicule, notamment dans le sud-ouest, dans le sud, est-ce que ça aura un impact sur les productions et les récoltes à venir?
Sur les productions et récoltes à venir, effectivement, ça pourrait avoir un impact parce que lorsqu'il fait très chaud, l'arbre se protège et donc fait que la sève s'arrête.
Sur quel type de fruits alors ça pourrait avoir
Ça pourrait éventuellement avoir un impact sur des produits plus d'automne, mais en l'occurrence, ça n'aura pas d'impact sur le goût, plus éventuellement sur le calibre.
Alors, la saison est excellente, on est ravis pour vous et pour vos producteurs, mais pourtant on avait une énorme inquiétude, notamment au sein de votre fédération en avril dernier. On va réécouter Françoise Roch, qui est, si je ne fais pas d'erreur, votre présidente.
Tout à fait.
Et qui, au moment des épisodes à la fois de grêle et de froid, avait eu ces propos-là. Écoutez.
On se retrouve dans des situations catastrophiques. Moi, je pense aux producteurs parce qu'on a une détresse chez les producteurs qui est terrible. Donc, très, très compliqué à se relever. De cette situation, on parle de 4 à 5 ans pour une exploitation pour se relever de ce type de situation malgré les soutiens de l'État. Mais là, on a tous les fruits touchés cette année. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a plusieurs espèces fruitières, c'est tous les fruits qui sont touchés.
Elle était très inquiète en avril dernier. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
Alors, en l'occurrence, malheureusement, l'inquiétude persiste pour les producteurs de fruits du sud-ouest, puisque le gel et les épisodes de grêle se sont majoritairement concentrés sur cette région. On l'a tous vu, encore les incendies d'ailleurs.
Pour les vignes alors
Pour les vignes, mais aussi pour les producteurs de pommes, par exemple, ou de prunes du sud-ouest. La prune va vivre une campagne avec des volumes qui seront bien moindres que les années passées, mais avec des fruits pour autant de qualité.
Là, et avec une incidence sur les prix, pour le coup, on parlait des incidences à venir. S'il y a moins de production, ça pourrait être plus cher, le raisin et les prunes?
En l'occurrence, tout est une question de volume au national. Donc le sud-ouest concentre une partie des volumes de prunes et de raisins, mais pas la totalité. Donc les équilibres devraient rester à peu près les mêmes.
Donc pour les fruits dont on a parlé précédemment, abricots et cerises, il y a eu une surprise quand même que ça soit aussi bon cette année après cet épisode-là où ça n'a pas eu justement d'incidence?
Alors, en l'occurrence, un producteur n'est jamais surpris, puisque son travail, c'est de faire avec la nature, avec ses difficultés, mais aussi ses atouts. Donc, il n'y a pas forcément de surprise, mais en revanche, ils sont forcément satisfaits et soulagés.
Soulagés. Il y a un soulagement? Pourquoi il y a un soulagement?
Il y a un soulagement parce que ces 4 dernières années, notamment dans la vallée du Rhône, ont été vraiment difficiles. On a beaucoup parlé de 2021, mais 2020, 2019 ont aussi été des années compliquées pour les producteurs.
Donc, enfin, ils respirent cette année pour eux. Et on l'a entendu, ils sont ravis de proposer des fruits excellents, juteux et sucrés à tous les consommateurs sur les marchés. Et on l'a entendu sur le marché à Marseille. Les gens sont très contents de la saison. Merci beaucoup. Merci Stéphanie Pratt d'avoir été l'invitée d'RTL Midi. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Fédération nationale des producteurs de fruits. Merci d'avoir été avec nous. Bon après-midi.
Merci à vous.
Merci à vous. À bientôt. On va faire une pause sur RTL et juste après, bien sûr, le Tour de France. Christophe Paco, RTL chez vous. La dernière étape des Pyrénées, la dernière chance d'avoir peut-être une explication en côte entre Pogacar et Vingegaard. À tout de suite sur RTL.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Tour de France 2022.
RTL
méfiez-vous.
Christophe Paco.
Et bonjour Christophe Paco.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Alors Lourdes, Otakam au programme du jour, dernière étape pyrénéenne. Pogacar n'a pas réussi hier à nouveau à Ebrand-Leving-Gegard. Est-ce qu'il va retenter aujourd'hui? Est-ce qu'il va réussir surtout? C'est sa dernière chance pour y arriver, Christophe.
Ah oui, suspense total pour ce dernier acte pyrénéen, Olivier. Ici, au pied de la Basilique de Lourdes. Direction Otakam, bien sûr, lieu d'un des plus grands succès, des plus beaux succès de l'ancien champion du monde de vélo, Luc Leblanc. La question du jour sur la beauté de ce tour, le coup de cœur de Laurent Jalabert, le point étape avec nos amis du Parisien aujourd'hui en France, mais sans plus tarder, rencontre avec un grand habitué du tour, fidèle parmi les fidèles, le prince Albert II de Monaco, après bien sûr le grand départ de sa principauté en 2009. RTL chez vous, c'est parti.
RTL, chez vous,
Christophe Paco.
Village départ de Lourdes, c'est un habitué, un passionné, c'est récurrent. Tous les ans, vous êtes sur le Tour de France, Monseigneur. C'est quoi, c'est un pur bonheur ?
Ah, c'est toujours un bonheur, c'est toujours une joie d'être dans cette ambiance du Tour de France qui est si particulière. C'est une épreuve tellement extraordinaire. C'est toujours pour moi une grande joie d'être sur le Tour de France et plus particulièrement pour cette très belle étape,
mais
Lourdes,
oui,
Otakam.
Vous voilà. Avez très bien choisi votre journée, Monseigneur. Je peux me permettre.
Hein. Non, mais je devais venir au grand départ et malheureusement, je n'ai pas pu venir au Danemark. Mais là, je voulais absolument venir à cette étape-là et donc je pense qu'on va avoir du très beau spectacle aujourd'hui.
Combien de sports olympiques le jeune Albert Grimaldi et même l'ancien a pratiqué dans sa vie quand même? Ça, c'est impressionnant. Hein.
Ah, j'ai un niveau compétitif différent, mais un niveau compétitif, j'ai fait 17 sports différents dans ma vie, oui.
Avec la tradition familiale qui était l'aviron.
Mais oui, j'ai fait un petit peu d'aviron. Moi, je n'avais pas le gabarit pour être dans les poids normaux, là, disons. J'aurais plutôt été un poids léger, mais c'est un très beau sport aussi. Mais enfin, tous les sports que j'ai eu la chance de pratiquer... Bien sûr, le bobsleigh qui m'a permis d'atteindre le plus haut niveau, mais j'ai pris du plaisir avec tous les sports que j'ai faits.
On va pas trahir de secret, on sait qu'en 2024, le Tour de France devrait s'arrêter à Nice pour cause des Jeux Olympiques 2024. Vous serez double casquette, membre du CIO, et en plus, tout près, on se dit qu'une étape, je sais pas moi, Italie, Monaco, France, ça serait bien les trois pays.
Bien sûr, mais écoutez, ça reste encore à discuter, mais je sais que c'est dans les esprits et dans les intentions de nos amis d'ASO, donc on va voir ça, mais en tout cas, je pense que ça sera vraiment novateur de faire une arrivée à Nice, donc ça va être très très intéressant.
Ouais, c'est ça, parce que vous avez toujours le petit badge du grand départ, quand même, c'était quelque chose à Monaco.
Ah, ça reste toujours un très beau souvenir, j'ai beaucoup de fierté de faire partie de ce club du grand départ. Voilà, c'est un attachement tout particulier que l'on a. Alors peut-être qu'un jour on regoutera aux joies du Tour de France à Monaco.
Oui, et puis en plus vous connaissez tous les cyclistes qui sont là quasiment. Vous avez même organisé une très belle course il n'y a pas longtemps à Monaco avec plein d'anciens, même d'actuels coureurs. Hein.
Oui, il y a eu un très beau critérium avec beaucoup de champions. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de cyclistes du professionnel qui habitent Monaco et qui sont, je crois, très heureux d'y vivre.
Merci mille fois, Monseigneur, d'être là et de profiter de cette belle journée jusqu'à Otakam.
Merci beaucoup, Christophe.
Tour de France 2022.
RTL, chez vous.
Et dans RTL, chez vous, on accueille Christophe Bérard du Parisien aujourd'hui en France. Salut Christophe.
Salut Christophe, toujours un plaisir d'être avec vous.
Et on refait le match aujourd'hui en plus sur RTL avec le Parisien.
Alors oui, on va refaire le match en disant que hier, il y a eu une petite pointe de déception. L'étape, l'arrivée à Peyragudes, elle était quand même magnifique. Mais le fait de les voir, le maillot blanc, le maillot jaune collés l'un à l'autre, il y a une forme de petite déception, on ne va pas se mentir, même si c'était du très haut niveau. Et on se dit, qu'est-ce qui peut maintenant faire que Vingegaard perde son maillot? Il est tellement fort, Vingegaard, que j'y crois pas. Je crois pas à...
Pas vous?
Ben si, alors mais à culpa peut-être ce soir et je me serais trompé.
Ben je t'appelle ce soir.
Voilà, et je ferai mon mea culpa ou on dira bravo.
Merci Christophe Bérard. Aujourd'hui en France, le Parisien. À demain.
À demain.
RTL, chez vous.
La chaleur est de retour sur le village départ avant la montée vers Otakam. Otakam, tiens, au lieu du cyclisme français. Victoire de Luc Leblanc, si je ne m'abuse. Bonjour Luc Leblanc.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Quelle année?
1994, ça date. Hein.
Ça date, vous étiez champion du monde déjà?
Non.
Ah non, c'est avant.
Mais oui, quelques semaines après.
Oui, à Agrigente, en Sicile.
Voilà, Agrigente, c'était le 28 août 1994 à Agrigente.
Ça, c'est l'année Luc Leblanc.
Ah, ça a été mon année, oui, c'est vrai. Non, j'en garde un énorme souvenir et puis de revenir ici au départ de Lourdes. Bon, à l'époque, c'était à Cahors le départ. Et l'étape faisait 260 km. Là, c'est pas 145 bornes d'aujourd'hui.
Non, mais, ouais, d'accord, mais aujourd'hui, t'as vu, ça va plus vite.
Non.
Il fait très chaud.
Non,
si, ça va beaucoup plus vite. Ils vont plus vite que toi.
Mais non, il faut pas dire ça. On roulait aussi vite à l'époque. Rappelle-toi Quimper-Nantes, en 1991, 280 km, on avait fait pratiquement 49 de moyenne. On était aussi fort qu'eux à l'époque, hein. Et puis on montait à la plaque. On montait grand plateau.
Grand plateau.
Ouais, le final. Pas toute la montée, mais le final.
Quelle est la nouvelle vie aujourd'hui de Luc Leblanc ?
Ben moi je suis avec Noroto, là je suis ambassadeur Noroto toute l'année.
T'es jamais en panne ?
Non, je suis jamais en panne. Non. Donc je conduis les invités Noroto, la direction générale, les directeurs de centre, les gros clients.
Juste quand tu vas arriver là-haut, t'auras un petit truc en plus ?
Ben, c'est ma première grosse victoire et puis ça fait longtemps que je suis pas revenu dans Otakam, donc je vais pouvoir partager avec mes invités cette sacrée montée et leur expliquer là où j'ai attaqué, ce que j'ai fait, comment je suis revenu sur Pantani avec Indurain et au moment où j'ai démarré le sprint. Voilà, je crois que je vais avoir les frissons et même peut-être la petite larme à l'œil parce que moi je suis quelqu'un d'assez sensible.
Merci Luc, bonne journée là-haut.
Merci.
Plein d'émotions. Hein.
Merci et puis bonjour à tous tes auditeurs et puis suivez le Tour de France sur RTL. Voilà, avec Christophe Paco, c'est génial.
Et ses équipes,
bien sûr.
Merci à toi.
Merci.
RTL, chez vous.
Ah mais bonjour Hortense Crépin.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Il n'est pas beau ce Tour de France 2022 et vous, ici à Lourdes, qu'en pensez-vous ?
Très beau spectacle et que ça continue.
Moi je pense que c'est un bon cru. Toutes les semaines ont été animées, les étapes également.
Il est plutôt pas mal, belle étape. Tous les coups sont permis aujourd'hui.
Merci beaucoup, bon tour à vous.
Merci beaucoup.
Bonne journée Hortense Crépin, en route dans les Pyrénées vers Otakam.
Tour de France 2022. RTL, chez vous.
Le coup de cœur de Laurent Jalabert. Bonjour Laurent.
Bonjour Christophe.
Ça monte encore et ça souffre derrière.
Ça monte, c'est dur, les coureurs sont épuisés. Mon coup de cœur, il va surtout vers ceux qui se battent pour terminer dans les délais, jour après jour. Ça fait plusieurs jours que l'on voit des coureurs distancés qui pourraient abandonner, mais qui ne le font pas parce qu'on respecte le Tour de France. Ils veulent aller jusqu'au bout d'eux-mêmes. Ils finissent hors délai pour certains. Bravo, chapeau à tous. Les coureurs, c'est des champions. Ils ont un gros cœur, un gros mental. Aujourd'hui, j'espère qu'ils seront tous à l'aide.
Alors, belle route vers Otakam aujourd'hui, Laurent Jalabert. À ce soir pour le club Jalabert, à quelle heure ?
À 18h30, hein. À tout à l'heure.
Christophe Paco, RTL, chez vous.
La course, elle va être superbe cet après-midi, c'est sûr Olivier, sur les routes escarpées des Hautes-Pyrénées.
Exactement, c'est sûr, arrivé à Otakam, merci beaucoup Christophe Paco, départ 13h40, un premier point sur la moto RTL avec Nicolas Georgerot à 14h, et puis le président de la République qui assistera aujourd'hui à toute l'étape dans la voiture du directeur du Tour, Christian Prudhomme.
RTL, chez vous.
Allez, on va faire une pause dans un instant. On attend vos coups de fil au 32-10 dans les auditeurs ont la parole sur les fruits et légumes, sur la poste qui abandonne le timbre rouge. On en parle avec vous et puis ce sera également l'heure du flash dans un instant. À tout de suite sur RTL.
Olivier Bois, RTL Midi.